Les Marches de la Foi, une émission du service diocésain de formation continue sur Radio Grand Ciel. Bonjour, Didier Gougis est avec vous cette semaine et je vais vous parler de l'exhortation apostolique du pape François à Amoris Laetitia, la joie de l'amour, qui a été publiée le 8 avril dernier. Exhortation apostolique, ça veut dire c'est un texte du pape qui suit un synode pour sa mise en œuvre dans l'Église. Et ce document vient dans un processus synodal inédit depuis le Concile Vatican II, puisqu'il y a eu une première concertation des catholiques dans tout le monde entier, un synode en 2014, une deuxième concertation, et puis le synode de 2015, d'où est sortie cette exhortation du pape, donc. Mais elle n'est même pas un point final, puisque des suites sont prévues, on va le voir. Le pape s'appuie énormément sur le travail des deux synodes, qu'il cite abondamment, mais aussi sur la tradition de l'Église passée et présente, à commencer par saint Thomas d'Aquin, les papes, le Concile, les papes depuis le Concile, depuis Paul VI, les conférences épiscopales du monde entier, etc. Le titre donc, la joie de l'amour. Première phrase, la joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Et on retrouve un fil rouge dans les textes du pape François, c'est la joie. Pour lui, c'est la définition même du mot, l'évangile est bonne nouvelle et la mission des chrétiens et de l'Église est de la partager. La portée du document, eh bien, on pourrait dire que c'est une révolution dans l'Église catholique. Voilà ce qu'il dit, je voudrais réaffirmer que tous les débats doctrinaux, moraux ou pastoraux, ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles. Magistérielles, ça veut dire du pape ou des évêques. Donc, il affirme que le magistère ne doit pas tout trancher. C'est assez peu habituel sous la plume d'un pape. Il dit également « Il y a unité de doctrine, mais interprétation différente de certains aspects de la doctrine. » Et donc, il ne donne pas de consigne universelle à appliquer partout de la même manière. Il dit que la vérité est une marche, un chemin. Et il parle également de questions de l'inculturation, c'est-à-dire de l'adaptation, ou mieux dit, de la mise en forme des textes dans une culture donnée. Car, dit-il, les cultures sont très diverses entre elles, et chaque principe général a besoin d'être inculturé s'il veut être observé et appliqué. Qu'y a-t-il dans ce document, La joie de l'amour ? On y trouve 9 chapitres qui traitent de nombreux sujets qui concernent la famille, ou plutôt les familles. Les différentes formes de famille. Il y a 325 paragraphes, et c'est impossible de tout résumer en quelques minutes, mais tout le monde peut le lire, parce que le pape l'adresse aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées, aux époux chrétiens et à tous les fidèles laïcs. C'est très lisible, très riche, très enthousiasmant, et plein d'enseignements pour la vie concrète des familles. Le premier chapitre s'intitule « À la lumière de la parole », et il nous propose une plongée dans la Bible, ou plutôt dans quelques textes, évidemment pas toute la Bible, et une application concrète de ces textes à la vie des familles. Par exemple, en commentant la création de l'homme et de la femme dans la Genèse, le pape dit « Le couple qui aime et procrée est la vraie sculpture vivante, capable de manifester le Dieu créateur et sauveur ». Je passe très vite au deuxième chapitre, intitulé « Les réalités et les défis de la famille ». Là, le pape propose une prise en compte de la réalité. Il ne parle pas d'une famille rêvée, idéale, autrement dit irréelle, mais de la famille dans le monde d'aujourd'hui, avec ses forces et ses faiblesses. Il invite l'Église à une salutaire réaction d'autocritique, là aussi c'est inhabituel, dans la manière de présenter le mariage et la famille au monde. Je cite « Nous avons du mal à présenter le mariage davantage comme un parcours dynamique de développement et d'épanouissement que comme un poids à supporter toute la vie. » Un parcours dynamique donc. Et il y parle aussi de la difficulté de respecter la conscience. Il nous coûte aussi de laisser de la place à la conscience des fidèles qui souvent répondent de leur mieux à l'Évangile avec leurs limites et peuvent exercer leur propre discernement dans des situations où tous les schémas sont battus en brèche. Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles. Et le pape aborde également les faiblesses du monde. Le tout jetable, le manque de perspectives d'avenir, l'affectivité sans limite, la mentalité antinataliste dans certaines régions, le risque des biotechnologies, la solitude, le mal logement, l'immigration qui sont source de souffrance pour les familles, les personnes handicapées, la place des personnes âgées, la misère, etc. Le monde réel donc. et il rebondit en employant le terme de défi. Ces situations, et bien d'autres, sont des défis pour les chrétiens. Dans cette partie, il aborde la question du droit des femmes, en des termes forts et en faisant une lecture théologique. Nous admirons une œuvre de l'esprit dans la reconnaissance plus claire de la dignité de la femme et de ses droits. Au troisième chapitre, le pape nous propose le regard posé sur Jésus. Et c'est aussi là un regard théologique que lui-même pose. Comment la famille s'enracine dans la foi au Christ ressuscité? Le pape y fait un bref parcours de la conception de la famille à travers des documents de l'Église depuis Vatican II, puis il entre dans le cœur du sacrement de mariage. La famille est l'image de Dieu qui est communion de personnes. Dans la foulée du synode, François exprime qu'il existe des éléments positifs présents dans les formes matrimoniales d'autres traditions religieuses ou dans d'autres formes d'union. Là aussi, il fait une première présentation du discernement nécessaire, sujet qu'il traitera plus en profondeur au chapitre 8. Quatrième chapitre, l'amour dans le mariage. Et le pape s'arrête longuement sur ce sujet. Il y a 75 paragraphes et c'est le plus long de tout le document. On en parle peu dans les médias. Et pourtant, de fait, dit-il, la grâce du sacrement de mariage est destinée avant tout à perfectionner l'amour des conjoints. C'est une citation du catéchisme de l'Église catholique. Et là, il va faire un magnifique commentaire du texte de saint Paul aux Corinthiens qu'on appelle l'hymne à l'amour, qu'on trouve dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. C'est un commentaire pas à pas que j'invite tous les auditeurs à lire. J'en donne juste une citation. « L'amour a toujours un sens de profonde compassion qui porte à accepter l'autre comme une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je l'aurais désiré. » Accepter l'autre comme une partie de ce monde. À partir du paragraphe 120, François dispense des conseils précieux pour grandir dans la charité conjugale. C'est-à-dire, ce sont des conseils au couple pour durer dans l'amour. Il ne se contente pas d'affirmer que promettre un amour qui soit pour toujours est possible, mais il ouvre des chemins pour y aider. Par exemple, l'importance du regard que l'on porte sur son conjoint. L'expérience esthétique de l'amour s'exprime dans ce regard qui contemple l'autre comme une fin en soi. Ou encore l'importance du dialogue. Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, d'exprimer et de faire mûrir l'amour dans la vie matrimoniale et familiale, mais il suppose un apprentissage long et difficile. Et il développe autour la question des langages différents, de l'écoute nécessaire, etc. Et il parle avec sensibilité du monde des émotions, si important dans une vie de couple, et de la dimension érotique de l'amour. Dieu lui-même a créé la sexualité qui est un don merveilleux fait à ses créatures. Au chapitre 5, le pape aborde la question de la fécondité au sens large, c'est-à-dire dans la vie donnée à des enfants, bien sûr, mais aussi dans la vie sociale. Il y traite de la maternité, de la paternité et du fait que tout enfant a le droit de recevoir l'amour d'une mère et d'un père, tous deux nécessaires pour sa maturation intégrale et harmonieuse. Et d'une manière originale, François affirme, en s'appuyant sur l'exemple de Jésus, que aucune famille ne peut être féconde si elle se conçoit comme trop différente ou séparée. Et il plaide pour que toute famille joue son rôle d'intégration dans la société. Dans ce chapitre, on peut lire aussi plusieurs paragraphes consacrés aux personnes âgées et leur rôle essentiel dans la continuité des générations. Une famille qui se souvient est une famille qui a de l'avenir. Le chapitre 6 s'appelle « Quelques perspectives pastorales » et il ouvre la voie à la pratique des chrétiens dans le domaine de la pastorale familiale. Là encore, le pape précise qu'il donne un exposé général, mais que, je cite, « ce sont les différentes communautés qui devront élaborer des propositions plus pratiques et efficaces qui prennent en compte aussi bien les enseignements de l'Église que les nécessités et les défis locaux. » Appel à la décentralisation donc et à l'application concrète sur le terrain, différente selon les terrains. L'axe qu'il donne est que l'Église désire accompagner toutes les familles et chacune d'elles afin qu'elles découvrent la meilleure voie pour surmonter les difficultés qu'elles rencontrent sur leur route. Accompagner, c'est un mot-clé de ce document, tout comme discerner. Suivre des orientations pour aider les fiancés à se préparer au mariage, puis ensuite dans les premières années du mariage, une vraie mine pour celles et ceux qui sont appelés à s'y consacrer. Par la suite, le texte se propose d'éclairer les crises, les angoisses et les difficultés, faire face à la crise qui se présente, apprendre à pardonner, soigner ses vieilles blessures. Il a des mots forts sur la place des personnes divorcées et engagées dans une nouvelle union. L'Église doit les accompagner, car elles sont incluses dans la communion ecclésiale. Le pape ne craint pas d'intituler une partie de ce chapitre « Quand la mort transperce de son aiguillon », car la mort fait partie de la vie de la famille. Le chapitre 7, intitulé « Renforcer l'éducation des enfants », interroge sur l'éducation. Et le pape demande « Où sont les enfants ?» pour conduire la famille à se demander à quoi elle veut exposer ses enfants. Il y donne de nombreux conseils pour une éducation saine des enfants, en invitant à prendre en compte le temps, c'est-à-dire le processus de maturation de la liberté de l'enfant. Il insiste également sur la nécessité de la formation morale des enfants comme éducation à la liberté, à travers un parcours qui propose des petits pas qui peuvent être compris, acceptés et valorisés par les enfants. Plusieurs paragraphes sont consacrés à l'éducation sexuelle et affective, dont le pape précise qu'elle ne peut être comprise que dans le cadre d'une éducation à l'amour, au don de soi réciproque. De cette manière, le langage de la sexualité ne se trouve pas tristement appauvri, mais éclairé. Enfin, bien sûr, dans ce chapitre, François parle de la transmission de la foi dont il dit qu'elle doit faire en sorte que les enfants grandissent dans cette façon d'entrer en relation avec le monde, sans renoncer à leur foi et à leurs convictions. Le chapitre 8, intitulé « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». Et les trois termes sont importants. Accompagner, discerner, intégrer. Et le pape va développer ces termes avec précision. C'est là qu'il s'arrête sur ce qu'il appelle le discernement pastoral, qui doit permettre de prendre en compte les personnes qui ne vivent pas l'idéal de la famille pour toutes sortes de raisons, et de les accueillir et de les accompagner avec patience et délicatesse. Il situe la loi comme un don de Dieu qui indique un chemin, et que le but est d'intégrer les personnes dans toutes les situations et non de les exclure. De manière très neuve, François affirme qu'on ne devrait pas attendre du synode ou de cette exhortation une nouvelle législation générale du genre canonique applicable à tous les cas, et que les conséquences ou les effets d'une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. Il insiste, un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations irrégulières, comme si elles étaient des pierres qui sont lancées à la vie de cette personne. Cette position se résume par cette expression « La charité fraternelle est la première loi des chrétiens ». Ce long et magnifique texte se termine par le chapitre 9 qui développe une spiritualité de la famille, spiritualité de l'amour exclusif et libre, mais aussi spiritualité de l'attention, de la consolation et de l'encouragement. Au cœur de cette spiritualité, il y a cette affirmation qu'on trouve au paragraphe 323 « C'est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque proche avec les yeux de Dieu et de reconnaître le Christ en lui. » Cette présentation est bien sûr partielle, elle visait surtout à vous inciter à lire ce texte fort et enthousiasmant. Peut-être pas tout à la suite, mais par petites touches, comme on vient se désaltérer à une source. Vous trouverez le texte intégral facilement sur le site du Vatican, vatican.va, mais aussi en cherchant sur votre moteur de recherche préféré. Je vous rappelle que cette émission est diffusée le lundi à 10h15, le mercredi à 16h15 et rediffusée le vendredi à 7h. Et bien sûr, vous pouvez l'écouter ou la télécharger partout et à toute heure sur radiograndciel.fr. Merci à Simon qui a assuré la technique de cette émission et à bientôt sur Radio Grand Ciel.